l'Iran relance son plan d'exportation de GNL alors que le monde s'obscule pour le gaz naturel. Le conflit en cours en Ukraine menace davantage la sécurité alimentaire mondiale. Les prix des denrées alimentaires ayant déjà atteint un niveau record, avertit le Programme alimentaire mondial. Et le Soudan et le Soudan du Sud conviennent d'un accord de coopération aux frontières. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran relance son plan d'exportation de GNL, gaz naturel liquéfié, alors que le monde s'obscule pour le gaz naturel. Ainsi écrit Bloomberg. L'Iran relance ses efforts pour exporter du gaz naturel liquéfié, tout comme l'Europe tente de réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie russe et que les puissances mondiales négocient un allègement des sanctions contre la République islamique d'Iran, a écrit Bloomberg le 15 mars. La Compagnie nationale du pétrole iranienne a rappelé les investisseurs à soumettre des propositions pour la construction de mini-unités de GNL, sans préciser la taille, le calendrier ou l'emplacement. Selon un communiqué. Les clients européens parcourent le globe à la recherche de sources de gaz qui pourraient remplacer les flux russes. La Russie est le premier fournisseur de carburant de l'Union européenne, fournissant environ 40% du gaz consommé dans le bloc l'année dernière, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'Iran possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz au monde et en exporte déjà par pipeline vers ses voisins, la Turquie et l'Irak. Dans la foulée, le PDG de la Compagnie nationale du pétrole iranienne a déclaré jeudi 17 mars que l'exploitation de l'un des secteurs de la raffinerie de la phase 14 du champ gazier de Parsud avait commencé avec la capacité d'adoucir 14 millions de mètres cubes de gaz par jour. M. Rojasteh Mehr a déclaré « Le contrat du champ commun de Sohrab a été finalement mis en œuvre et un nouveau contrat vient d'être signé qui nous apportera un investissement étranger de 500 millions de dollars. » Une augmentation de la production de gaz dans la phase 11 du champ de Parsud sera à l'ordre du jour au cours de l'hiver prochain. La raffinerie, que se trouve à la phase 14, possède 4 secteurs et a une capacité de 56 millions de mètres cubes par jour pour adoucir du gaz. Le haut responsable iranien a ajouté que la Compagnie nationale du pétrole projetait de maximiser la production du gaz au champ de Parsud. Cet hiver, nous avons battu un record en produisant 750 millions de mètres cubes par jour, a-t-il fait savoir. Au Yémen, les combattants d'Ansar Allah ont lancé une série d'opérations militaires contre les mercenaires à la solde de l'Arabie Saoudite dans le district stratégique de Harad, appartenant à la province de Raja. Une opération d'envergure lancée depuis l'ouest de Harad a permis aux combattants d'Ansar Allah de sécuriser plusieurs villages après en avoir repoussé les mercenaires à la solde de Riyad. Lors de cette attaque, qui a entraîné la libération de sept villages et un champ agricole, une centaine de mercenaires ont péri, selon une source sur place. Les régions libérées d'une superficie de 60 km se situent dans le district de Midi, qui partage une frontière avec le district de Harad, ajoute la même source. En outre, la libération de ces régions a permis aux combattants d'Ansar Allah d'atteindre la frontière de l'Arabie Saoudite et d'étendre les conflits jusqu'à l'intérieur de la localité de Harissa, au sud de la province de Jizan. Grâce aux percées jusqu'ici enregistrées par Ansar Allah, les régions de l'ouest de la ville de Harad ont été complètement sécurisées et les combattants se dirigent vers la profondeur de Midi, en nord-ouest de Hadja, ainsi que le sud de Jizan. Les combattants d'Ansar Allah sont actuellement à une vingtaine de kilomètres de la ville stratégique de Midi et s'ils en prennent le contrôle, la coalition d'agression saoudienne perdra son bastion le plus important dans la province d'Oadja et Ansar Allah atteindra la frontière de la province de Jizan et la mer Rouge. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires terroristes ont attaqué à nouveau vendredi 18 mars les villages proches des zones qu'elles occupent dans la banlieue nord d'Oaxaca, en visant à l'artillerie des villages dans la périphérie des localités d'Abu Rassin et Tal Tamr au nord-ouest d'Oaxaca. des sources locales ont fait savoir aux correspondants de Sana'a, l'agence de presse officielle syrienne, que les forces d'occupation turques avaient bombardé à l'aide des réseaux terroristes à l'artillerie lourde les maisons des habitants des villages dans la périphérie de la localité d'Abu Rassin et dans un certain nombre de villages périphériques de la localité de Taltabr, dans la banlieue nord-ouest de Hasaka, ce qui a causé des dégâts matériels dans les maisons et propriétés et semé la peur parmi les habitants. Avec le soutien d'une unité de l'armée arabe syrienne, les habitants des villages de Rayat al-Sawda et Tamna al-Rayya dans la banlieue de Ramishli ont intercepté un convoi de véhicules militaires appartenant aux forces d'occupation américaines et l'ont expulsé de la zone. Cité par des sources locales, la correspondante de Sana'a, Ramishli, a fait savoir qu'un convoi de l'occupation américaine, composé de 6 véhicules militaires, avait tenté de passer vers les villages de Tamna al-Rayya, via le point de contrôle de Rayat al-Sawda, dans la banlieue sud de Ramishli. Les habitants avaient jeté des pierres sur les véhicules de l'occupation et les avaient expulsés des environs des deux villages avec le soutien de l'armée. Les habitants ont de même scandé des slogans contre l'occupation américaine. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a averti vendredi que le conflit en cours en Ukraine menace davantage la sécurité alimentaire mondiale, les prix des denrées alimentaires ayant déjà atteint un niveau record. Jacob Kern, coordinateur d'urgence du PAM pour l'Ukraine, a souligné lors d'une conférence de presse en ligne que le conflit avait déclenché une vague de faim à travers le monde. En tant que premier et quatrième exportateurs mondiaux de blé respectivement, la Russie et l'Ukraine représentent ensemble 29% du commerce mondial du blé et c'est pourquoi les deux nations sont essentielles pour assurer la sécurité alimentaire de nombreux pays à travers le monde. Selon M. Kern, les prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant ont fortement augmenté depuis le début du conflit. Ainsi, selon l'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ils ont atteint un niveau record en février 2022. En particulier, a-t-il noté, le prix du blé a augmenté de 24% entre le 21 février et le 15 mars. Le Soudan et le Soudan du Sud conviennent d'un accord de coopération aux frontières. Le président sud-soudanais, Salva Kiir, et le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, ont convenu vendredi, 18 mars, de se concentrer sur la coopération le long de leurs frontières communes. Comme point de départ de cette coopération, les deux hommes ont convenu de définir un modèle de paix par le développement des gisements pétroliers inutilisés, y compris celui de la région d'Abyei, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud, Maik Ayi Deng à Djouba, la capitale de ce pays. M. Al-Burhan est arrivé à Djouba pour y rencontrer M. Kiir et discuter des progrès et des défis dans la mise en œuvre de l'accord de paix redynamisé de 2018. Les deux dirigeants ont encouragé leurs concitoyens à tirer profit de leur diversité pour enrichir et renforcer les deux pays. Le Soudan du Sud et le Soudan relanceront leur ancienne coopération économique, politique et culturelle qui a rendu notre civilisation de la vallée du Nil prospère depuis le royaume de Kouch qui unit nos deux peuples par une origine commune, a déclaré M. Deng. M. Al-Burhan a présenté au président Kiir une proposition pour l'unification des forces unifiées nécessaires. Le président sud-soudanais a salué la proposition de M. Al-Burhan et son engagement pour une paix durable au Soudan du Sud. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Missiles iraniens déplaceront Israël. Un responsable israélien aurait lancé l'idée d'acheter des îles grecques inhabitées dans la mer Méditerranée afin d'évacuer et de relocaliser les colons israéliens en cas d'attaque aux missiles depuis le Liban et la bande de Gaza. Qui est ce juif génial qui voit les îles grecques comme d'homme d'enfer pour sauver ses compatriotes d'un scénario de missiles terrifiant et imminent? Pourquoi pleure-t-il le rejet de son idée? Et quel est le lien du milliardaire égyptien Narib Saveris avec ce projet fou? S'interroge Abdel Bari Atvan, le rédacteur en chef du journal Rayal Yaoum, dans un article publié dans le numéro du vendredi 18 mars. Le 3 septembre 2015, le milliardaire égyptien Narib Saveris a eu une idée invraisemblable qu'il a exprimée sur son compte Twitter. Au plus fort de la migration de masse vers l'Italie et la Grèce, Saveris s'est adressé aux autorités des deux pays pour leur faire part de son intention d'acquérir une ville en Grèce pour y reloger les réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe. Ce qui mérite réflexion, explique Atvan, c'est que 7 ans après cette idée folle, un riche Israélien nommé Avri Steiner, membre subsidiaire du Fonds national juif, vient l'apprendre au pied de la lettre. Lors d'une réunion du conseil d'administration à la mi-mars, Steiner a déclaré que l'achat d'îles grecques devrait être exploré comme une option pour évacuer les citoyens israéliens en cas de catastrophe ou de guerre, étant donné que la Grèce compte 40 îles inhabitées. Steiner a poursuivi en disant que les missiles de représailles du Hezbollah ont atteint la station balnéaire israélienne de Netanya pendant la guerre de 33 jours avec le Liban durant l'été 2006 et qu'ils peuvent désormais atteindre toutes les villes à travers les territoires occupés d'Israël. La proposition de Steiner a été rejetée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration car elle contredit les objectifs du Fonds juif qui a été créé en 1901 avec pour mission de collecter des fonds auprès de la communauté juive à travers le monde pour l'achat des terres palestiniennes et financer la construction des colonies juives en Cisjordanie. Atvan estime qu'il n'est pas exclu que les membres de cette instance israélienne regrettent profondément le rejet de cette proposition dans un avenir proche. Selon lui, ils se rendront compte que Steiner était en avance sur eux de plusieurs décennies, car il prévoit d'ores et déjà l'avenir sombre qui attend ses concitoyens en Palestine occupée et tient à élaborer des solutions, compte tenu des dangers qui les entourent de toutes parts, dont les plus importants sont des centaines de milliers de missiles hautement sophistiqués et précis de l'axe de la résistance. Pour Atvan, ce qui a poussé Steiner à lancer cette idée, c'est l'opération de l'épée de Rotz menée pendant 11 jours par les groupes de résistance dans la bande de Gaza en mai dernier. Face à l'incapacité des systèmes antimissiles d'armes de fer à intercepter les 4200 roquettes tirées par les combattants de la résistance, le conflit a contraint l'entité sioniste à envoyer 6 millions de colons dans des abris et fermer les aéroports civils pour la première fois depuis son établissement il y a 74 ans. Le feu de la guerre, conventionnel ou cyberconflit, se rapproche de Tel Aviv. Les missiles à raison de 3 000 par jour, selon les estimations des sionistes, s'abattront sur les territoires occupés de toutes parts, a averti Atvan en évoquant l'attaque aux missiles du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, qui a détruit un centre stratégique du Mossad à Erbil, en Irak, le 13 mars dernier. Et Atvan a conclu sur un ton ironique que le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, avait bien raison de conseiller aux colons juifs d'apprendre à nager, car lors d'une guerre future, la mer sera devant eux et les missiles derrière.